Non, je vais commencer par lire des versets dans le psaume 139, de 19 à 24. Si tu pouvais tuer l'impie, Dieu, et vous, homme de sang, éloignez-vous de moi. Eux qui parlent de toi avec perfidie, ils pratiquent l'idolâtrie, eux tes ennemis. Comment ne haïrais-je pas, Yahvé, ceux qui te haïssent? Comment contre ceux qui s'élèvent contre toi, je ne m'élèverai pas? Profondément, je hais ceux qui haïssent. Ils sont pour moi des ennemis. Scrute-moi, Dieu, et connais mon cœur. Pénètre-moi, tu connaîtras mes intentions. Alors, vois s'il y a en moi un chemin pervers et conduis-moi sur le chemin de retour. On est loin d'un texte doucereux, n'est-ce pas? Ces psaumes qui dérangent, on les appelle également des psaumes d'imprécation. Alors j'ai pris mon dictionnaire et j'ai vu que prononcer une imprécation, c'était souhaiter du mal à une personne. Cette psaume d'imprécation, plutôt ces versets d'imprécation, il y en a beaucoup dans les psaumes, et on peut dire qu'un tiers des 150 psaumes contient, a un contenu comme ça de haine, de demande de vengeance, d'expression très violente. Alors il est bon de se rappeler qu'affirmer que ces psaumes font partie de la parole inspirée de Dieu, eh bien c'est une condition indispensable, préliminaire à une compréhension correcte de ces paroles. Avant de nous lancer dans cette étude, nous devons réaffirmer notre confiance dans la parole de Dieu, nous déclarer d'accord à ce qu'a dit Jésus-Christ, reconnaître que David, qui a écrit ce psaume, a parlé et écrit sous l'inspiration de l'Esprit. Cela exige beaucoup d'humilité, de renoncement à notre propre jugement, parce que bien sûr, nous avons un jugement, nous croyons une autorité pour juger ce que dit la parole. Et là, nous devons renoncer à notre propre jugement comme autorité suprême et avoir de la confiance absolue dans la parole de Dieu, même si nous ne la comprenons pas. Je ne sais pas si vous avez tout compris ce qu'on vient de lire, mais il y a encore plein de choses qui me dépassent. Alors revenons au contexte. Ça s'est passé dans le cadre de l'alliance, comme on a parlé Dominique tout à l'heure, de la première alliance. C'est dans le cadre d'un peuple lié par une alliance avec Dieu, et cela comprenait un engagement mutuel. Une partie faisait quelque chose et l'autre partie répondait à cette chose. Et en cas de rupture de l'engagement, des sanctions étaient prévues, comme dans tout contrat. Le psalmiste demande à Dieu de les appliquer et de punir ceux qui transgressaient son alliance. Cette punition avait aussi un rôle pédagogique, comme on peut lire dans le psaume 140, verset 9. Ne laisse pas réussir les projets du méchant de peur qu'il ne s'en glorifie. L'alliance avec Abraham promettait la bénédiction à ceux qui béniraient la postérité d'Abraham et la malédiction à ceux qui la maudiraient. Dans Genèse 12, nous pouvons lire, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette alliance était inconditionnelle et ses promesses restent valables aussi longtemps qu'Israël subsiste en tant que nation. Sur cette base, David avait donc parfaitement droit, en tant que représentant de cette nation, en tant que roi, de prier Dieu qu'il veuille accomplir ses promesses en maudissant ceux qui maudissaient ou attaquaient Israël. C'était tout à fait légitime. Nous allons reprendre ces six versets l'un après l'autre. Si tu pouvais tuer l'impie, Dieu, et vous, homme de sang, éloignez-vous de moi. Donc David la propose à son interlocuteur, Dieu, deux types de sorts à réserver aux méchants. Alors qu'est-ce qu'on entend par méchant? C'est toute personne qui est hostile à Dieu dans ce contexte et qui est coupable de péché envers Dieu et envers l'homme. Donc les deux sorts à réserver aux méchants, il est question de la mort dans la première partie du verset et l'exclusion dans la deuxième partie. La deuxième partie est rarement utilisée, on entend rarement parler de l'exclusion, d'éloignez-vous, de l'éloigner de Dieu ou de celui qui est victime. La suppression de la vie, en quelque manière que ce soit, était une réalité omniprésente dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que la mort était très très souvent demandée, plutôt que l'exclusion, l'éloignement. La deuxième partie, il est écrit, et vous, homme de sang, éloignez-vous de moi. À ce méchant, il lui est reproché d'être un homme de sang. Le délit d'être homme de sang, ce qui veut dire meurtrier, bien entendu, doit être sanctionné par la mise à l'écart, loin du psalmiste. Et dans cette deuxième partie, on devra bien reconnaître que la sanction est plutôt modérée par rapport à la première partie du verset. Et il faut remonter donc à la première partie pour retrouver l'application du principe de réciprocité. Tu m'as fait du mal, je te punis, je te maudis. Et de toute façon, la demande est adressée par un si, le premier mot du verset, qui marque bien la nuance de souhait. Ça veut dire que Dieu à qui le psalmiste demande, reçoit cette demande, est désigné pour la première fois dans ce psaume par l'expression divine Dieu. Alors, il y a une demande qui est faite si tu pouvais tuer l'impie. C'est une. Tu es Dieu, tu es entièrement libre de faire ce que tu veux, je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire. Voilà la position du psalmiste. Le deuxième verset, le 20. Eux qui parlent de toi avec perfidie, ils pratiquent l'idolâtrie, eux, tes ennemis. Les deux fautes ou écarts de comportement mentionnés au verset 20, c'est il est question de perfidie et d'idolâtrie, n'ont rien à voir avec un crime de sang que le premier verset que nous venons de lire laisse supposer. En effet, il lui est d'abord reproché au mauvais. Pardon, au mauvais de parler avec perfidie. Alors, la perfidie est un délit de langue, de la parole, dont est accusé le mauvais. Dans le psaume 40, je vous ai dit que beaucoup de psaumes reprenaient ce langage de demande de vengeance, il est dit, aiguisent leur langue comme des serpents. Il est question de ce que fait le méchant. Sa langue est comme une langue aiguë de serpent. Dans le psaume 40, verset 10, il est dit, le cri de leurs lèvres couvrira la tête. Psaume 140, verset suivant, l'homme de langue ne restera pas dans le pays. Et c'était donc quelque chose qui était jugé très grave, ce que l'on pouvait dire de méchant contre quelqu'un. Ça l'est toujours de nos jours, n'est-ce pas? Et cette perfidie était dirigée contre Dieu lui-même. C'était donc un blasphème, parce qu'on en disait une chose fausse. Contre Dieu, c'était un blasphème. Perfidie, mensonge, ruse, supercherie. Ça indique ici la circonstance, la manière avec laquelle se produit le parler de Dieu avec perfidie, parler à Dieu avec perfidie ou mensonge. Et c'est une enceinte au deuxième commandement qui est condamné par la loi de Moïse. Ce délit est considéré comme blasphème. Dans le deuxième commandement, il est dit, tu ne blasphémeras pas ton Dieu. Et à ce premier délit s'ajoute le délit d'idolâtrie. Donc passons à la deuxième partie du verset. Ils pratiquent l'idolâtrie, eux tes ennemis, en indiquant que la traduction littérale du verset de la première partie. Il est dit, tu n'élèveras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour une chose vaine et fausse. En résumé, nous pouvons retenir qu'au verset, à ce verset 20, l'idolâtrie est assimilée au blasphème. Tous les deux constituent des fautes directes contre Dieu. Alors ça, c'est une manière de voir qu'avait ce peuple hébraïque, le peuple de Dieu à cette époque-là. Verset 21. Comment ne haïrais-je pas, Yahvé, ceux qui te haïssent? Comment, contre ceux qui se lèvent contre toi, je ne m'élèverai pas? Après la description des faits dont il accuse les méchants, le psalmiste se donne le temps d'exprimer ses propres sentiments. Il se résume en un mot, haine, la haine. Celle-ci a deux raisons diverses. D'abord, le psalmiste éprouve de la haine contre les ennemis de Dieu, comme il est dit là, ceux qui te haïssent, parce que leur comportement est incompatible avec Dieu. Ensuite, la haine du psalmiste repose sur le simple fait que les ennemis de Dieu sont aussi ses propres ennemis, parce que Dieu est son ami. L'ennemi de mon ennemi, l'ennemi de mon ami devient mon ennemi. Car pour reprendre ses propres termes, j'ai du dégoût pour ceux qui te combattent. Le psalmiste nomme Dieu par son nom. Là, autant il parlait, il disait Dieu dans les premiers versets, là il l'appelle par son nom, Yahvé. Je suis celui qui est. Cela démontre une intimité encore plus profonde entre David et le Dieu qu'il implore, qu'il prie. Verset 22, s'il te plaît. Profondément, je hais ceux qui haïssent. Ils sont pour moi des ennemis. Dans l'Ancien Testament, cette expression « je hais ceux qui te haïssent » qui peut être en hébreu un seul mot, n'est-ce pas ? Mais dans notre langue, on a été obligé de le traduire de cette manière-là. « Je hais ceux qui le haïssent » revient dans l'Ancien Testament 282 fois. C'est donc quelque chose qui est présent. Donc dans ce verset, la notion récapitule en même temps toutes les descriptions antérieures sur les sentiments d'une psalmiste envers les impies. Je hais tout ce qu'ils ont fait contre toi, comment ils se sont comportés. Les ennemis sont tout d'abord des ennemis de Dieu, et c'est seulement en tant que tels qu'ils deviennent aussi des ennemis personnels de David. Parce que ce David est ceux qui sont ennemis de Dieu, ceux qui haïssent Dieu. Alors, jusqu'où peut-elle aller cette haine de David? Ben, en verset 19, il l'a dit, hein, il souhaite la mort. Et à l'occasion, peut-être, de l'éloigner. Nulle part ailleurs dans la collection que l'on vient de lire, le psalmiste ne fait une telle déclaration de solidarité en faveur de son Dieu et contre ceux qui haïssent Dieu. Là, il est très clair qu'il exprime ça sont très profondes. Je hais ceux qui te haïssent. Et ils sont pour moi des ennemis. L'impie ou les méchants sont les criminels, les hommes de sang, qu'on a vu le verset 19. Ils sont blasphémateurs et idolâtres, vu dans le verset 20. Ils le sont ainsi parce qu'ils haïssent, verset 21. Et ils combattent Yahvé, deuxième partie du verset. Ils sont donc ennemis de Dieu. Par conséquent, le psalmiste a ses propres raisons de les haïr et de les combattre. Avant-dernier verset, le 23. Scrute-moi Dieu et connais mon cœur. Pénètre-moi et tu connaîtras mes intentions. Donc on approche de la fin de ce psaume et là il a deux demandes. D'abord, une enquête pour mieux le connaître. Et l'autre demande, « Pénètre-moi, tu connaîtras mes intentions », peut surprendre par sa nouveauté, ou plutôt parce qu'elle ne semble pas directement découler du trame, jusque de la trame des versets lus. Jusque-là, il était question d'une demande de vengeance, d'une expression de haine. Et là, c'est complètement différent. David cherche à être conduit sur le chemin du retour. Un appel à une enquête divine. Pourquoi cela? Et il commence par, encore une fois, il n'appelle plus Dieu par son nom, mais il appelle par son nom générique, dirons-nous, Dieu. Et c'est cette notion de le Dieu des dieux. celui qui est vraiment au-dessus de toute chose. Et quand il dit scrute-moi et connais mes pensées, cela signifie scrute-moi pour que tu connaisses mon cœur. Parce que David, là, il recherche un ami, il recherche un appui, il recherche quelqu'un qui le comprenne, avec qui il va pouvoir avoir une liaison totale et intime. Et pénètre-moi et connais mes intentions revient à dire que David invite Dieu à rentrer en lui dans son fort intérieur, dans le but de connaître les intentions de David. Dernier verset. Alors vois s'il y a en moi un chemin pervers et conduis-moi sur le chemin de toujours. C'est donc la suite des versets qu'on a lus et de ce qu'il a vécu avant, ce qu'il a exprimé avant. Il veut voir s'il se trouve sur le mauvais chemin. Il demande à Dieu, montre-moi, peut-être que je déraille, peut-être que je suis parti à côté, peut-être que je me suis éloigné de toi. Et cette expression, le chemin de toujours, c'est ce chemin étroit, fidèle, qui nous mène à Dieu. C'est un chemin que l'on ne peut pas, dont on ne peut pas se détourner. Ça, c'est le vrai chemin. Et David craint de s'en éloigner. En même temps, s'il lui dit « conduis-moi sur le chemin de toujours », c'est qu'il est convaincu qu'il sort blanchi de l'enquête de Dieu. Il se sent totalement blanchi, vierge par rapport à Dieu. Et donc David peut à ce moment-là oser formuler l'ultime demande avant d'en arriver... Cette ultime demande veut dire est-ce que je suis digne de confiance en toi? Est-ce que mon crédit vis-à-vis de toi, il est intègre, il est complet? Et David sait que c'est la condition sine qua non d'une relation, d'une intervention divine de Dieu. Dieu, maintenant nous sommes sous une autre alliance. Et grâce au sang de Jésus, nous n'avons plus vu de la part de Dieu ce côté pécheur, ces ténèbres en nous. Donc Dieu peut intervenir, intervient et va intervenir en nous. Et David était tout à fait conscient qu'il lui fallait avoir un crédit complet, une confiance, être irréprochable aux yeux de Dieu. J'ai passé beaucoup de temps à préparer ce message et il y a beaucoup de choses à dire, mais nous avons un temps limité et puis ça pourrait devenir confus. Alors, il m'a été conseillé de faire des raccourcis dans le genre ce que sont les psaumes d'imprécation. Quand on lit tous les psaumes et qu'on en retire chaque verset, on peut résumer cela de cette manière-là. Les psaumes d'imprécation sont un appel à l'accomplissement de la justice divine. Ça, nous l'avions deviné. Le psalmiste demande la vengeance de Dieu. Les psaumes d'imprécation sont une consolation pour le croyant dans l'épreuve. Il est dans l'épreuve, mais il n'est pas seul. Il peut demander du secours. Les psaumes d'imprécation ne sont pas un encouragement à se faire justice soi-même. Et David, dans ce cas-là, ne renonce pas au combat. Je ne me venge pas, c'est le rôle de Dieu, j'en appelle à Dieu, mais je ne renonce pas au combat. J'exprime cette douleur que j'ai en moi, cette tragédie, ce désir de vengeance qui est légitime. En même temps, les psaumes d'imprécation soulagent le croyant du fardeau de la vengeance en vue du pardon. Les psaumes d'imprécation appellent le jugement, mais ils n'en décrivent pas l'exécution. Bien sûr, il y a des tas de psaumes où le psalmiste va dire à Dieu, tue la famille, affame-les, brûle la maison, enfin, des choses horribles. Mais ce sont des paroles qui, en fin de compte, ne seront pas appliquées par le psalmiste, mais il n'a pas peur d'exprimer ce qu'il ressent. Les psaumes d'imprécation démontrent l'intimité existant entre Dieu et le psalmiste qui s'épanche sans retenue. N'est-ce pas une grâce de pouvoir tout dire à Dieu? Je viens d'une autre confession et où on parlait souvent du bon Dieu, du petit Jésus. C'est une relation avec Dieu assez moche, assez loin de la réalité. Et on arrondit les choses. On ne doit pas se bagarrer, on ne doit pas être violent, on est tout comme des marshmallows, hein, comme de la pâte à modeler, vraiment tout. Et là, eh bien, avec grâce à l'intimité qu'il y a entre Dieu, le psalmiste ose lui dire, tue-les, débarrasse-les de moi. Les psaumes d'imprécation sont également la première étape à franchir pour s'avancer sur le chemin du pardon et de l'apaisement. Comment peut-on aller vers le pardon et l'apaisement si on a toujours cette vengeance, cette haine en soi? Et je ne vous connais pas bien, mais je me connais moi, et je peux vous dire que c'est pas reluisant parfois. Les psaumes d'imprécation permettent d'écouter également les plaintes des victimes. Quelqu'un qui demande vengeance, c'est une victime. On entend souvent, enfin, une ou deux fois par an, on a un culte de portes ouvertes. Est-ce que nous pensons réellement, sérieusement, à tous ces chrétiens qui souffrent dans le monde et qui appellent à la vengeance, qui en appellent à Dieu pour la vengeance? La méchanceté, la douleur, c'est une chose réelle, elle fait partie de notre monde. Donc, il faut penser que ces psaumes, eh bien, permettent d'écouter les plaintes des victimes parce qu'elles ont pu s'exprimer. Et dernière chose, à travers les psaumes d'imprécation, la victime découvre une première bouée de sauvetage. Et c'est émouvant. Il peut prier. C'est une prière qu'il fait. Même si pour nous, ce sont des mots violents. C'est une prière qu'il fait à son Dieu. N'est-ce pas magnifique? Nous allons maintenant arriver dans la deuxième alliance, j'en suis à la fin. J'ai appelé ça la voie de la croix. À Golgotha, la vengeance de Dieu n'a pas frappé les pécheurs, comme nous l'avons vécu tout à l'heure au moment de la scène. Mais le seul innocent qui a pris la place des pécheurs, qui a pris ma place, qui a pris votre place, le Fils de Dieu. Jésus-Christ a porté la vengeance de Dieu dont le psaume invoque la venue. Il est devenu malédiction. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, est devenu malédiction, comme il est dit dans Galates 3:10. Et c'est d'une preuve décisive et bouleversante que Dieu ne pactise pas avec le mal. Il en a été jusque-là, à tuer son Fils. Jésus crucifié assume en sa personne, en son corps, la vengeance divine contre le mal. Et cela nous libère d'une exigence de vengeance si forte parce qu'elle est légitime. Et aujourd'hui, ce n'est qu'à travers la croix du Christ, à travers la mise en œuvre de la vengeance de Dieu, que je peux croire à l'amour de Dieu et pardonner aux ennemis. Amen. On pourrait prendre le 227, s'il vous plaît, sur le mont du Calvaire. Il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. C'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. On prendra la première strophe et le refrain uniquement.